France Culture.
Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des drogues, alors que s'ouvre à Paris demain une rencontre sur drogues et culture organisée par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie et la chaire santé de Sciences Po. Car un phénomène comme celui-ci n'est pas analysable sans référence au contexte social et culturel qu'il a vu naître et se développer. C'est ce que nous expliquait lundi l'ancienne ministre Monique Pelletier, mais également hier les intervenants du documentaire d'Aurélie Luneau et de Marie-Ange Garandeau de Bandol à Marmottan, une nouvelle route de soins pour les drogués. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au glissement des discours sur les drogues entre la fin des années 60 et celle des années 70 et le début des années 80. Nous le ferons avec Aurélie Luneau de la Fabrique de l'Histoire qui a préparé avec nous toute cette semaine, avec des textes également lus par Nathalie Canoui et des archives issues du Fonds de l'INA, également d'un film diffusé par le CNDP, le Centre National de Documentation Pédagogique, dans les écoles à partir de 1974. Nous commenterons ces textes et ces archives en compagnie d'Henri Bergeron, sociologue au Centre de Sociologie des Organisations du CNRS et enseignant à la chaire santé de Sciences Po, et de Thierry Lefebvre, historien des radios libres, mais également de tout le mouvement qui accompagna et précéda même ces radios libres, et auteur d'un article sur la dépénalisation du cannabis et la presse dans les années 60 et 70. Bonjour Aurélie Luneau.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous avez préparé donc avec nous toute cette semaine et on pourrait commencer tout de suite la discussion avant d'entendre ces archives, puisque mercredi c'est jour d'archives dans la Fabrique de l'Histoire, des archives que vous êtes allé acquérir du côté du CNDP mais également de l'Institut National de l'Audiovisuel et des textes. On pourrait commencer avec peut-être vous, Henri Bergeron, je vous ai présenté, vous êtes sociologue, sur les discours, sur l'idée qu'il y a des discours sur les drogues qui ne correspondent pas forcément, ces discours, à ce qui se passe dans la société, aux évolutions sociales. Il y a à la fois les évolutions sociales et politiques qui accompagnent ce mouvement des drogues. Et puis, il y a des discours qui sont des discours scientifiques, des discours médiatiques, des discours culturels sur les drogues qui accompagnent ou pas, d'ailleurs, ces grandes évolutions sociales. Vous dites d'ailleurs que pour ce qui est du discours médical, dans un de vos travaux, pour ce qui est du discours médical, eh bien, la question de la frontière entre drogue légale, drogue illégale, entre nécessité médicale ou pharmacologique de justifier, par exemple, le classement des stupéfiants, eh bien, tout cela, ça tient peut-être plus souvent d'une façon de classer, parce que ça permet de savoir ce qui est dedans et ce qui est dehors, qu'autre chose, Henri Bergeron.
C'est sûr qu'il est extrêmement difficile de trouver des raisons purement pharmacologiques ou psychopathologiques pour expliquer le classement juridique des drogues en drogues licites ou illicites. D'ailleurs, petite précision, en fait, plutôt que de parler de drogues licites ou illicites, on devrait plutôt parler de drogues classées stupéfiantes, voilà, dont l'usage est contrôlé.
Vous rappelez que l'héroïne et l'opium ont eu des moments où ils étaient justement légales, illicites, et puis d'autres moments, et dans certaines civilisations, et puis d'autres moments ou pas.
Oui.
Il a changé.
Je crois qu'il n'y a pas un manuel de sociologie ou d'anthropologie des drogues qui ne commence par rappeler le fait qu'il existe des fonctions et des statuts variables pour ces différents produits psychoactifs et que ces mêmes produits psychoactifs ont changé au cours de l'histoire de statut. Le cannabis, par exemple, étant conçu à un moment donné comme un support de rituel, va être conçu plus tard comme une médecine, devenir un poison, puis une drogue illicite, ou redevenir maintenant, comme cherchent à le faire certains militants au Canada, aux États-Unis, redevenir un produit avec des vertus thérapeutiques dans le cas du traitement de la douleur accompagnant certaines maladies chroniques ou ayant pour but de réaugmenter l'appétit. Donc on voit bien qu'effectivement, le classement des drogues en substances licites ou illicites est un classement provisoire, que cette séparation qui les sépare est fragile, qu'elle est l'objet de luttes à la fois politiques, sociales, symboliques et économiques, et que, bien sûr, quand on s'arrête à un moment précis de l'histoire, on a l'impression qu'elle elles sont indépassables, infranchissables, mais dès qu'on prend un peu de perspective historique, eh bien on se rend compte que les produits, même si ça s'est stabilisé depuis les années 70 en Occident ou 50 en Occident de manière un peu stable maintenant, sur la grande histoire, depuis 1850, on voit clairement des oscillations et des passages d'un statut à l'autre.
Alors justement, demain on reviendra sur la longue durée avec nos invités du débat historiographique, mais on a choisi aujourd'hui, Aurélie, de se cantonner à une période donnée, c'est-à-dire en gros la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70 ou le début des années 80, c'est cela ? Mais
tout simplement dans l'idée de comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à justement ces images qui collent à la peau et ces images que nous renvoie la société, ces représentations. On a souvent le sentiment que ces années, fin des années 60 et années 70, on a des images plus hippies, beatniques, hein, avec une toute autre couleur par rapport à ces addictions. Et puis ensuite, on évolue vers des années 80 un petit peu plus dures.
Oui, on a raison d'ailleurs de le penser, Henri Bergeron, quand on regarde cette longue durée, on viendra au 19e siècle demain, mais aujourd'hui, puisqu'on est centré sur cette question des années 60 et 70, on a raison de penser qu'il y a quelque chose dans le discours public qui change aux alentours de la fin des années 60 et qui va encore changer de façon plus radicale à la fin des années 70 et au début des années 80, avant de se lancer dans ce débat.
Oui, oui, je crois qu'il y avait déjà, enfin, je pense que les invités de demain vous en parleront plus nettement, mais il y avait déjà les ferments d'un discours de diabolisation de l'usage des drogues et de ceux qui en consomment qui étaient là. Et si dans les années 60-70, un rapport un peu particulier, un rapport cultivé à l'usage de certains produits, dits psychédéliques, hashish, marijuana et bien sûr LSD, va se développer, le début d'un discours beaucoup plus dur sur l'usage d'autres produits va également se développer à ce moment-là.
Thierry Lefebvre.
Oui, effectivement, plutôt la fin des années 60, et je dirais, enfin c'est mon interprétation, le contexte très précis du LSD, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir aux États-Unis. Hein, ce sont les États-Unis qui sont à la pointe de la lutte contre la drogue à cette époque-là, avec les deux étapes successives, le mouvement hippie, puis sa dégradation vers un mouvement plus violent avec les Weathermen et compagnie.
Les Weathermen, rappelons-le, c'est un groupe qu'on pourrait qualifier de terroriste. En tout cas, c'est un groupe qui est intervenu sur le territoire américain de façon violente pour pouvoir contester la guerre du Vietnam.
Tout à fait. Et évidemment, tout cela est très médiatisé à l'époque. Ces images, que ce soit de Woodstock, que ce soit des attentats commis sur le territoire américain, arrivent en France et il y a une certaine inquiétude par rapport à ça. Et donc, il va y avoir une focalisation sur le LSD autour duquel va s'articuler, en fait, le discours sur la drogue. On va utiliser le terme drogue, mais dans un premier temps, c'est bien le LSD qui sera ciblé. Puis dans un deuxième temps, le trafic de drogue et plus précisément le trafic d'héroïne.
Alors justement, vous avez choisi deux archives avec Marie-Ange Garandeau, notre réalisatrice, pour toute cette semaine. Deux archives, l'une date du 26 avril 1968, Aurélie. Elle s'appelle, donc c'est une Jacques Sancel qui intervient dans l'émission Madame Inter d'Annick Beauchamp. Il y interviewe Michel Lanceau, c'est celle qu'on va écouter tout de suite. Et puis tout de suite derrière, on écoutera également une autre archive, un tout petit peu plus récente, du mois de février 1969, à propos de la sortie du film Les Chemin de Katmandou d'André Kayat, réalisateur déjà ancien à cette époque, qui réalise donc un film sur ces Européens qui partent au Népal et qui perdent non seulement leur âme, mais leur santé. Alors on va grouper ces deux archives l'une derrière l'autre. D'abord, Jacques Chancel, 1968, interview de Michel Lanceau pour un livre qui a beaucoup fait parler de lui et très longtemps, il faut le dire, Je veux regarder Dieu en face, un livre justement en particulier sur Timothy Leary et l'expérience du LSD.
Eh bien, ça ne sera pas aujourd'hui une chronique tout à fait habituelle. J'ai près de moi Michel Lancelot qui vient d'écrire un livre sur les hippies, Je veux regarder Dieu en face, et qui vient de paraître chez Albin Michel. Tout d'abord, Michel Lancelot, est-ce que vous pensez que les hippies méritent un livre ?
Oui, je crois qu'ils méritent un livre.
Pourquoi ?
Mais je crois qu'ils méritent un livre dans la mesure où d'abord on a parfaitement méconnu ce phénomène. Ce qui s'est passé, je crois, c'est que la plupart du temps, lorsque les journalistes ou enfin mes autres confrères ont parlé du mouvement hippie, ils étaient, disons, bousculés par l'actualité.
Ils en ont plaisanté,
ils ont tourné cela du côté folklore. Enfin, ils ont vu ce qu'il y avait de folklorique dans le mouvement, et ne pouvant se rendre sur place, ou peut-être ne voulant pas étudier ce phénomène dans ses racines les plus profondes, eh bien, ils ont laissé passer, je crois, quelque chose de très, très important et qui, en tout cas, sur le plan américain, était une chose essentielle.
Et vous, vous êtes parti pour San Francisco voir ce qui se passait là-bas.
Voilà, je suis allé deux fois, oui.
Je crois qu'il faudrait préciser tout de suite que votre livre n'est pas simplement une chronique des hippies, c'est un livre très sérieux qui remonte aux sources puisque vous montez jusqu'à presque l'Antiquité.
Oui, parce que finalement, enfin, c'est une banalité de le dire, mais rien n'est neuf, rien n'est nouveau. Ils n'ont fait que regarder avec des yeux neufs à travers de vieux trous, quoi, si vous voulez, de vieux trous de serrure. En fait, il est évident que la voie qu'ils ont empruntée, qu'elles soient, je sais pas, mystiques, religieuses, sociales, folkloriques, tout ce que vous voulez, avaient déjà été faites, en fait, avaient déjà été empruntées jusque dans l'Antiquité.
Il faut croire tout ce que vous dites dans le livre. Lorsque vous dites, par exemple, que le Christ est allé en Inde, il faut le croire.
Ah non, je ne dis pas qu'il a été en Inde, je dis que c'est une hypothèse qui a été émise par deux historiens et qui, actuellement, n'est pas, bien sûr, acceptée par l'Église, n'est pas acceptée par Rome, mais qui n'est plus reniée, parce que la deuxième fois, un savant américain qui s'appelait Roderick, au début du siècle, en 1925, je crois, a ramené des documents qui prouveraient l'existence d'un voyage du Christ aux Indes. Vous savez, toute cette période, on sait que le Christ, à partir de 14 à 30 ans, il y a toute une période de la vie du Christ que l'on ignore absolument. Il n'y a aucune ligne là-dessus dans les Écritures. Il est possible, disons. Mais je crois, ce qu'il faut dire, ce n'est pas très important, finalement, que le Christ ait été aux Indes ou qu'il n'y ait pas été. Ce qui est important, et c'est cela, c'est important surtout sur le plan pour les hippies, qui croient, eux, à ce voyage, ou du moins à son symbole, il faut croire au symbole, c'est-à-dire à la démarche, à une certaine démarche, nécessaire peut-être sur le plan spirituel, de l'Occident vers l'Orient. C'est cela qui est important.
Deuxième archive, donc celle du 19 février 1969, c'est Interactualité, et on y évoque donc la sortie en salle des Chemins de Katmandou d'André Kayat, avec bien sûr, dans un des rôles principaux, sinon le rôle principal, Jane Mirkin.
C'est un pays où chacun fait ce qu'il veut. Personne ne s'occupe de toi. Tu es libre.
Le paradis, quoi.
Tu sais ce que c'est le paradis, toi? Moi, j'imagine c'est un endroit où personne t'oblige, personne te défend. Ce que tu as besoin, tu ne prends pas aux autres. Ils te le donnent. On partage tout. On s'aime. On n'a que de la joie.
Avec musique de harpe et plumes d'ange?
Tu rigoles, mais c'est possible. Mais il faut vouloir.
Le nouveau film d'André Kayat, c'est Les Chemins de Katmandou. Katmandou, c'est cette ville du Népal qui est le haut lieu des hippies. André Kayat, comment avez-vous découvert Katmandou? Car beaucoup de gens ignorent d'abord le nom de Katmandou, de cette ville un peu fantomatique, et en outre ignorent aussi que c'est vraiment la Mecque des hippies.
Eh bien, j'y suis allé la première fois avec un projet de film complètement différent de celui que j'ai tourné, puisque c'était une histoire qui se passait dans le milieu des pilotes des neiges, des pilotes des glaciers. J'ai rencontré les pilotes en question, je les ai vus regarder vivre, jusqu'au jour où j'ai découvert un autre monde dont je ne soupçonnais pas l'existence, à savoir des hippies, des garçons et des filles, pas du tout des hippies en technicolore, des hippies
à l'état nature,
dévorés par la maladie, par la syphilis, par la tuberculose, par la sous-nutrition. Et le personnage qui m'a donné un choc, c'est surtout une fille venue de France, venue de la haute bourgeoisie parisienne, que j'ai rencontrée à l'état animal, ou presque, c'est-à-dire une fille ravissante qui avait 16 ans et demi, qui croupissait dans la bouse de vache.
Et squelettique.
Squelettique, qui se prostituait pour 3 roupies, 1 franc 50, qui avait vendu son sang à l'hôpital tant qu'on avait pu lui en prendre et tant que ce sang était utilisable, et qui était là, réduite à l'état de larve, agonisant. Et évidemment, j'ai été choqué par ça. Choqué comme homme, tout court, comme homme blanc et comme français.
Voilà donc ces deux archives. La première, donc, je le rappelle, c'était en avril 1968. Michel Lancelot n'était pas encore le présentateur de Campus sur Europe 1. Il le sera pendant les événements de mai 68, où il remplacera au pied levé, pourrait-on dire, François Jouffat, qui avait créé cette émission qui avait été supprimée après l'interview de jeunes proches de Rudi Dutschke. C'était donc pendant les événements de mai 68 sur Europe 1. Et puis donc, un peu plus tard, en 1969, cette interview d'André Kayat, on voit bien... Thierry Lefebvre, vous êtes spécialiste de l'histoire des radios, mais également de cette question de la culture autour de la drogue. On voit bien qu'il y a les deux discours qui fonctionnent quasiment simultanément. Un discours infernal, pourrait-on dire, la drogue c'est l'enfer, et un discours paradisiaque qui est pas très éloigné de ce que raconte tout de même dans Je veux regarder Dieu en face, Michel Lancelot, expliquant les expériences du LSD, de la réalité augmentée, pourrait-on dire, de tout ce qu'il y avait autour des expériences de Timothy Leary et d'Aldous Huxley, Thierry Lefebvre.
Oui, alors effectivement, ça c'est une caractéristique de cette période qui est cruciale, qui est la période avant la loi de 70, où les esprits vont se former, vont être préparés en quelque sorte à un certain nombre de décisions importantes.
Rappelons que la loi 70, on en a parlé hier et avant-hier, est une loi donc qui va à la fois mettre l'injonction thérapeutique au cœur de son dispositif, mais également la poursuite pénale des drogués.
Voilà. Et donc en fait, pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, l'histoire part du LSD et de la popularisation du LSD dans les médias français qui s'opèrent vers 66, avec un certain nombre d'articles, une première interview d'un médecin, le docteur Pensoussan, dans Le Monde, donc en avril 66, si je me souviens bien, une succession d'articles, France Soir, Minute, Paris Jour, etc.
Donc de la grande presse.
De la grande presse, qui a tendance, bien évidemment, à caricaturer un petit peu la situation. Et donc, ce qu'on voit avec Lancelot, c'est un livre qui paraît en 68, et le film de Kayat, 69. Ce sont des documents, les deux documents sont des documents opportunistes qui partent d'un fait de société qui a été révélé par les médias et chacun choisit un camp, une lecture possible, un angle. Ouais. Et la différence en particulier entre Lancelot et Kayat, c'est que Lancelot va parler du LSD à proprement parler, alors que Kayat va très vite parler de l'héroïne et des conséquences que ça peut avoir et va faire rentrer en jeu le personnage du junkie qui est évidemment le personnage qu'il faut éviter absolument dans une société comme la société française.
Aurélie.
Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'à cette époque-là, dans la fin des années 60, en France, il y a une méconnaissance des drogues. Alors, on a le sentiment que le fléau des drogues, ça se passe aux États-Unis et en Angleterre. Donc en France, il y a cette méconnaissance et non prise de conscience. Mais alors, Henri Bergeron, vous, par rapport à ce mouvement hippie et ces images, vous avez expliqué que c'est un mouvement qui a banalisé l'usage de certaines drogues.
Pas banalisé, mais peut-être il a fait rentrer la consommation de drogue et un certain type de consommation et un certain rapport à un certain style de consommation. Donc, comme je disais tout à l'heure, un rapport cultivé à cette consommation, une consommation qui permet de potentialiser des dispositions créatrices qu'on aurait au fond de soi et qui étaient jusque-là inaccessibles. Donc il y a vraiment... Ça a fait certainement rentrer donc une forme de consommation dans l'imaginaire des drogues français.
Parce que c'est un mouvement contre-culturel, mais aussi qui s'inscrit dans une démarche artistique.
Tout à fait. Alors une démarche artistique, il y a des beaux articles, je pense notamment à celui de Maugère qui explique très bien que vraiment dans cette prise de drogue on est à la recherche d'un ailleurs là aussi inaccessible à découvrir et que on retrouve une utilisation finalement assez traditionnelle des drogues qui est une utilisation dans le but de communiquer justement avec des dimensions de l'expérience humaine voire surnaturelle que l'on ne peut pas atteindre autrement. Mais donc le produit comme un médium pour autre chose.
Mais est-ce qu'il n'y a pas simultanéité justement Henri Bergeron et Thierry Lefebvre, Henri Bergeron des deux discours, c'est-à-dire un discours qui peut-être pourrait être une simultanéité, disons, de génération aussi, parce qu'on entend bien dans ce qu'on a entendu comme archive que la question de la jeunesse est encore extrêmement présente dans le discours de cette fin d'année 60. On n'est pas si éloigné. Il faut se rappeler que 58-59, ce sont les tricheurs autour des blousons noirs et ce sont les films qui mettent en avant les blousons noirs et que 69, c'est 6 ans après le concert de la Place de la Nation, l'idée que ces jeunes sont un peu des rock'n'rollers qui vont casser la société ancienne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'un discours sur le jeune ou sur la jeunesse dans ces années-là, Henri Bergeron ?
Oui, tout à fait.
Protection.
Il va y avoir l'utilisation de la drogue par l'instrumentalisation du problème drogue en politique, comme c'est un cas extrêmement fréquent qui a déjà été décrit au début du siècle, au début du XXe siècle, pour vis-à-vis des Chinois consommateurs d'opium sur la côte californienne, et qui par ailleurs avait réussi à s'octroyer une place de choix dans le commerce avec l'Asie, et qui, dont on espérait qu'en criminalisant une de leurs pratiques culturelles, on allait pouvoir s'en défaire. Certains auteurs, comme le psychanalyste Zafiropoulos ou le sociologue Patrice Pinel, soutiennent que la loi de 70 a été créée dans un vaste climat de reprise en main d'une jeunesse qui avait fait vaciller l'État français en 68 et s'inscrit dans un climat général assez répressif avec la loi anti-casseurs de 1970, avec une loi restreignant la liberté d'association dans le cadre des associations loi de 1901, avec également la loi sur la liberté sur les libertés individuelles de 70. Donc il y a vraiment un climat général de reprise en main de la jeunesse, et en criminalisant un usage privé, qui est une disposition absolument exceptionnelle dans le droit français, d'une supposée partie de la jeunesse, eh bien on espère aussi politiquement lutter contre cette frange révolutionnaire.
Aurélie.
Alors, Thierry Lefebvre, vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la presse underground, et là aussi en montrant qu'elle naît d'abord aux États-Unis en 1964 précisément, et qu'ensuite elle se développe. Donc est-ce que c'est par ce biais-là, ce mouvement-là de presse, que petit à petit l'image de la jeunesse et de la drogue évolue et puis entre en France ?
Non, je pense pas. Ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait juste. C'est l'usage de la drogue. On voit bien que ça démarre des milieux culturels. Je pense en particulier à ce qu'on appelait l'International Hallucinex de Jean-Jacques Lebel, qui a publié un certain nombre d'ouvrages, en particulier de défense du LSD. Je pense également à des pratiques médico-culturelles comme celle d'un laboratoire pharmaceutique important à l'époque, le laboratoire Sandoz, qui produit des films sur les drogues, sur les hallucinations, en particulier sur l'œuvre d'Henri Michaud, donc Image d'un monde visionnaire, un film d'Éric Duvivier.
Et des films destinés à qui ?
Aux médecins, aux psychiatres, pour essayer de leur montrer quels étaient l'impact des drogues, quelles étaient les représentations, etc., avec usage d'effets spéciaux qui seront repris ensuite dans les films de fiction. Et cette presse underground dont vous parlez, en particulier actuelle, qui est le journal le plus emblématique, vient après, justement parce qu'il y a eu criminalisation en quelque sorte d'une certaine jeunesse, et cette criminalisation de cette jeunesse, elle est évidemment la suite de 68 avec la reprise en main par Marcellin, qui est également à l'origine en partie de la loi de 70, et il y a également une volonté de casser un certain prosélytisme. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les jeunes Américains rompent en masse avec leur société. Ils font ce qu'on appelle le drop-out, c'était la formule de Timothy Leary, et ils prennent la route. Et la route, elle passe par Paris, qui est un des passages obligés. Et on a, dès 66-67, des tas de hippies, on les appelle pas encore tout à fait comme ça, qui traînent le long de la Seine, du côté de la statue Henri IV, d'Henri IV.
Le square du Vert-Galant.
Le Vert-Galant, je vois que vous connaissez.
Voilà. Un des lieux principaux.
Qui est le lieu, tout à fait, où Olivenstein va rencontrer les premiers hippies, il va faire la découverte de tout ça. Et donc il s'agit de casser ce mouvement par tous les moyens, et donc il va y avoir une phase de forte répression où on va mélanger effectivement tout type de drogue, puisque c'est la drogue majoritaire, c'était quand même le LSD à l'époque.
Oui, parce qu'effectivement, il y a quand même cette question de l'individuation des drogues, c'est-à-dire qu'en gros, on parle de cela comme d'un phénomène, on dit la drogue, en évitant à chaque fois, Henri Bergeron, de classifier, de voir. Et puis après, petit à petit, on va finir par dire drogue douce, drogue dure, classifier de façon plus précise ou pas ?
Alors, juste un petit détail quand même qui va dans le sens de ce que vous disiez, c'est que les premiers intervenants en toxicomanie qui s'appelleront comme ça finalement 10 ans après, dans les années 70, et qui sont créés suite à la mise en place du dispositif sanitaire, suite à l'adoption de la loi de 70. Pour beaucoup, d'ailleurs, ils partagent énormément d'affinités culturelles avec les gens qu'ils sont censés traiter. Et l'une des premières postures, hein, juste pour vous rappeler, s'appelle Contre tout. Donc on a vraiment de manière assez significative une homologie entre les goûts...
Alors qu'un des mouvements maoïstes de l'époque s'appelle Tout, justement. Vous voyez, le mouvement le journal de VLR, de Vive la Révolution, s'appelle Tout, justement.
Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce rapport particulier à la drogue masque le développement de toutes sortes et de toutes formes d'usages, et notamment le développement, à partir des années 75, 76, 77, le développement d'une consommation plus massive qui concerne moins des jeunes privilégiés et plus des gens des classes moyennes ou des classes ouvrières. Et l'héroïne, effectivement, commence à être consommée plus largement dans la société française, au-delà de ces premiers cercles culturellement privilégiés et qui faisaient de leur pratique de consommation une pratique à la fois contestataire et culturelle.
Alors, Nathalie Canoui, premier texte, il s'agit d'un texte qui a été écrit et publié aux États-Unis en 1971, dont on n'est pas sûr de l'authenticité d'ailleurs, mais qui a eu un succès considérable à la fois aux États-Unis et ailleurs. Ça s'appelle « L'herbe bleue, journal intime d'une jeune droguée », publié aux Presses de la Cité dès 1972.
9 avril. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école et le proviseur m'a immédiatement appelée dans son bureau. Il m'a dit qu'il avait appris ma conduite et que j'étais un exemple répugnant de la jeunesse américaine. Et puis il m'a déclaré que j'étais foncièrement égoïste, indisciplinée, puérile, et qu'il ne tolérerait pas un seul écart de conduite de ma part. Et puis il m'a renvoyée en classe, comme des ordures qu'on jette à la poubelle. Quel con. Plus que jamais, je suis décidée à apprendre la psychologie et la psychiatrie pour aider les jeunes. Les gosses ont besoin d'avoir des gens compréhensifs autour d'eux, qui les écoutent, qui se soucient d'eux. Ils ont besoin de moi. La nouvelle génération a besoin de moi. Et ce pauvre type stupide et imbécile, qui a probablement renvoyé des centaines de gosses, m'a lancé un défi personnel. Il peut sans doute renvoyer les autres, mais pas moi. J'ai étudié mes leçons pendant 4 heures ce soir. J'ai travaillé et je vais continuer jusqu'à ce que j'aie attrapé tout ce que j'ai manqué. Même si je dois m'y coller 8 heures par nuit. À bientôt, journal.
Donc, lu par Nathalie Canoui, un extrait de ce livre « L'herbe bleue, journal intime d'une jeune droguée », donc publié en 1971 aux États-Unis, immédiatement traduit en France avec beaucoup de succès. Il faut tenir compte aussi, quand on travaille sur la réception et les discours sur les drogues, des succès d'édition qui vont petit à petit rythmer, édition ou filmographique, qui vont rythmer toutes ces années 70, Thierry Lefebvre.
Oui, et puis « L'herbe bleue » sera communément lu dans des classes. Évidemment, le livre est particulièrement édifiant. Il va dans le sens en particulier de la frange la plus rigide des personnes qui tournent autour de la drogue en général, c'est-à-dire ceux qui croient intimement à la théorie de l'escalade, hein, puisque c'est un roman où la jeune fille touche au LSD au départ, si je me souviens bien parce que je ne l'ai pas relu depuis longtemps, et qui ensuite se retrouve sous le coup de l'héroïne. Or, la théorie de l'escalade est constamment contestée dans les années 70 par des gens qui pensent qu'il y a une différence entre les drogues qu'on va appeler douces et les drogues effectivement dures.
Comment d'ailleurs articuler, quand on est sociologue comme vous, Henri Bergeron, ce discours qui est un discours médical d'un côté, de spécialistes qui connaissent bien les sujets et qui n'arrivent peut-être pas toujours à faire parvenir au grand public la réalité de ce qu'ils vivent au jour le jour, face à justement des discours construits comme celui que vient d'expliquer Thierry Lefebvre, construit par des romans, par des films, par des scénaristes, mettons.
Vous posez un problème clé de la façon dont, on pourrait dire, la connaissance méthodique ou scientifique, plus généralement, arrive à pénétrer en politique ou dans la société civile. Il y a, en tout cas sur l'histoire des drogues, ce qui est assez fascinant, c'est finalement la résistance des idées de sens commun à tout ce qu'a pu apporter à la fois la connaissance médicale, le savoir, et y compris la sociologie. Ça, c'est quand même une constante. Alors, c'est un problème propre aux sciences sociales. Hein. Il y a, d'une manière générale, les sciences sociales ont du mal à trouver des débouchés opérationnels pour leur connaissance, hein, et à faire en sorte que leur connaissance soit au principe de l'action des États, au principe d'un certain nombre de décisions publiques.
Oui, mais la particularité, c'est que là, les sciences sociales peuvent s'allier, d'une certaine façon, avec un discours qui, lui, est scientifique, entre guillemets, dit scientifique, le discours de sciences dures des médecins. Donc,
alors, attention, je ne vous laisserai pas dire que les sciences sociales ne sont pas une science.
Non, mais
plus concrètement, alors ce qui est intéressant quand même, c'est effectivement il y a un discours de clinicien et qui trouve beaucoup d'écho avec le discours des sciences sociales. Et puis il y a quand même aussi un discours de clinicien qui est un peu l'épouvantail contre lequel les sciences sociales vont se construire. C'est-à-dire que les sciences sociales, le discours de clinicien vont valoriser l'hypothèse de la prédisposition psychologique finalement ou l'hypothèse de la prédisposition biologique. Et les sciences sociales vont montrer que les seuls effets pharmacologiques des produits ne peuvent pas expliquer les phénomènes et d'usage et d'addiction. Alors là, je vous renvoie à la sociologie, notamment d'Howard Baker, on en parlait tout à l'heure, qui a montré très clairement que si vous voulez, pour prendre goût d'un produit, exactement comme pour le vin, il fallait apprendre dans le flux des sensations qui nous submergent quand on prend ce produit, quelles sont ces sensations qui sont positives, quelles sont les sensations qui sont négatives, qu'on fasse le tri, qu'on apprenne à repérer les effets. Alors il a fait cette étude sur le cannabis et finalement il a montré que le goût du cannabis était quelque chose qui s'apprenait. Le goût du cannabis n'était pas immédiat. Et que finalement, contre la théorie psychologique de l'addiction au cannabis qui veut que la motivation à consommer soit une cause de la consommation, finalement, il montrait que la motivation à consommer était une conséquence de l'usage. C'est-à-dire que c'est par l'usage, comme pour le vin, qu'on va apprendre à repérer. Et ça avait été aussi montré, si je peux me permettre, par un sociologue dans les années 1930, Linda Smith, qui avait été complètement frappée du fait qu'un certain nombre de personnes qui étaient hospitalisées et qui s'étaient vues prescrire un nombre important d'opiacés pendant des longues durées sortent de l'hôpital sans devenir dépendants. Il avait fait une étude en interviewant un certain nombre de ces personnes, et il s'était rendu compte que finalement, ceux qui étaient dépendants étaient ceux qui associaient le syndrome du manque qu'ils ressortaient à leur sortie de l'hôpital à la cessation du produit. Alors que les autres, qui ne l'associaient pas et qui se disaient « je me sens pas très en point parce que je suis un peu convalescent, je suis fatigué, j'ai eu une grosse opération, c'est normal », ne cherchaient pas à reprendre du produit. Du coup, la perception et l'acte perceptif d'associer des effets de produit à une prise et de se dire que l'on va reprendre du produit pour renouveler ses effets est absolument décisif dans les phénomènes d'induction de la dépendance.
Aurélie.
Mais alors, au quotidien, dans votre travail de sociologue, Henri Bergeron, la difficulté, c'est quoi? C'est de déconstruire l'image du toxicomane, c'est ça?
C'est-à-dire que déjà, je trouve que L'Herbe bleue, journal intime d'une jeune droguée, est déjà extrêmement significative de l'époque, mais je crois que malheureusement, on pourrait faire le même constat aujourd'hui, c'est-à-dire une jeune droguée. C'est-à-dire que le terme de droguée, on ne peut pas l'utiliser insensiblement, comme si il ne charriait pas avec lui son lot d'images très importantes. Et un drogué, c'est généralement, en tout cas la figure la plus commune, quelqu'un qui a renoncé à son humanité, quelqu'un qui est dans la plus grande des déchéances morales, quelqu'un qui a perdu ses compétences rationnelles, quelqu'un qui a suspendu son jugement moral, quelqu'un vraiment qui est tout entier subjugué corps et âme par le produit.
Et qui porte l'image du drogué, c'est ce qu'on entend
qui porte l'image
dans
le texte. Cette image a été la figure qui a omnibilé la société, les sociétés occidentales, autant que les décideurs en politique publique, alors que l'on sait maintenant, notamment par les recherches en sociologie, que derrière se cache un continent d'usages aussi divers que
la variété.
On peut pas parler du drogué comme on va parler, je sais pas quoi moi, du bois de Boulogne en désignant un endroit bien unique, bien identifié, très clair. Je crois que c'est plus possible.
Alors, quand on prépare cette émission du mercredi, qui est une émission donc consacrée aux archives, nous allons chercher bien évidemment chez nos amis de l'Institut National de l'Audiovisuel ces archives, mais nous allons essayer, nous essayons généralement de trouver dans d'autres fonds d'archives des archives audiovisuelles qui traitent du sujet en question. Vous êtes allé du côté du CNDP, le Centre National de Documentation Pédagogique, qui pendant très longtemps a fourni aux écoles, aux lycées, des films pédagogiques ou des films d'information. formation qui permettait aux professeurs et aux instituteurs de faire leur travail, d'accompagner leur travail. Et là, vous avez retrouvé un film de 1974. Alors, vous étiez très heureuse, Aurélie.
J'ai retrouvé Laurent Garraud. Hein, oui, je le cite parce que merci à lui, il est responsable du fonds audiovisuel et il a regardé ce dont il pouvait disposer pour les années 70.
Et alors, vous avez été un peu trompé par le titre. Ça s'appelle Les drogues et le système nerveux. Vous vous dites, c'est parfait, 74, on est en plein milieu des années 70. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez le film en question, qui dure 26 minutes, je crois?
Eh bien, en fait, je me rends compte qu'il dure 30 minutes. C'est Pierre Desgroupes qui mène un débat avec des docteurs de Sainte-Anne, des spécialistes. Et là, je découvre que pendant les 26 premières minutes, on ne traite que des drogues licites, des anesthésiants. On montre des expériences sur les chats. Et puis, il faut attendre les 3 dernières minutes pour enfin s'intéresser aux drogues illicites.
Les drogues et le système nerveux, réalisé par Serge Huette et avec pour auteur Robert Malpeuch.
Eh bien, monsieur, nous avons vu au début de cette émission que le professeur Delay avait classé les drogues, comme nous disons, en 3 grandes catégories. Nous avons surtout parlé de 2 d'entre elles, les psycholeptiques et les psychoanalytiques, c'est-à-dire en gros, disons, les tranquillisants et les stimulants. Reste une 3e catégorie dont il faut quand même dire quelques mots, ce sont les psychodysleptiques. Ce sont des substances qui sont utilisées soit médicalement, soit d'une manière, disons, illégale et en tout cas non prescrite par la faculté, en tant que stupéfiant, disons, en gros. Et alors, je voudrais vous demander, d'abord, quel usage vous faites, vous, de ces drogues qui sont malgré tout extrêmement dangereuses, et ensuite, si vous avez ici, parmi vos malades, des gens dont la maladie a comme origine l'usage de ces fameux stupéfiants.
Eh bien, ce ne sont pas les stupéfiants proprement dits, comme la morphine, l'héroïne, qui sont en cause de nos jours, presque pas dans notre pays, grâce d'ailleurs à sa législation, mais ce sont les drogues qui proviennent soit du groupe des amphétamines, soit des hallucinogènes. Et ces substances qui, sous contrôle médical, pouvaient avoir un grand intérêt, notamment comme mode d'exploration, et qui étaient, on peut dire, très sûres, dans la mesure où le patient était correctement traité, en particulier, on avait la possibilité d'user d'antidotes qui stoppaient net l'action des hallucinogènes, qui peuvent permettre des explorations intéressantes du subconscient. Par contre, l'usage incontrôlé de ces drogues, qui est dû notamment au fait qu'elles sont quasi invisibles, comme le LSD, dont on a beaucoup parlé, qui agit à des doses du millionième de grammes, n'est-ce pas, qui sont donc des quantités invisibles. Les patients qui les prennent sans contrôle ne savent même pas ce qu'ils prennent. Ils prennent des mélanges, ils prennent ce qu'on leur donne et ce qu'on leur passe. Et alors là, ça nous fournit indiscutablement, depuis quelques mois, un contingent de malades internés ou de malades qui entrent ici avec des troubles mentaux qui, lorsqu'on n'a pas la notion du toxique, simulent remarquablement la schizophrénie.
Combien avez-vous, par exemple, de malades en traitement ici, dont la maladie est due à l'usage abusif de ces drogues?
Eh bien, un premier travail a été présenté au premier congrès qui s'est tenu sur cette question à Québec, et nous avons présenté une statistique de 20 cas qui porte sur 2 ans.
Voilà donc pour ce film du CNDP qui s'intitule donc « Les drogues et le système nerveux », un film de 1974 qui traite, parmi d'autres, la question des addictions aux hallucinogènes en très peu de temps, à la toute fin, dans les 3 dernières minutes, donc dans cet entretien de Pierre Desgroupes avec un docteur de l'hôpital Sainte-Anne, Thierry Lefebvre.
Oui, avec même un professeur de la faculté de médecine de Paris, qui tenait la chaire, je crois, de pharmacologie ou quelque chose comme ça, le professeur Delay. Professeur Delay qui dit en particulier une absurdité, il dit que la morphine et l'héroïne en particulier sont en déclin. Évidemment, il dit ça parce que on essaye de démanteler, ou on a quasi démantelé à cette époque la French Connection.
Il faut rappeler effectivement cet épisode très important qui a donné lieu à 2 films en particulier.
Tout à fait.
Grand public. Oui,
un grand succès.
Autour de ces questions de démantèlement grâce à la police américaine et la police française des laboratoires de fabrication d'héroïne dans le sud de la France.
Voilà, autour de Marseille. Donc démantèlement effectivement de cette filière et Ça, c'est un fait avéré, mais l'héroïne provient d'autres lieux et commence à exploser véritablement dans les années 70 et à toucher une population toujours jeune et à créer en particulier un nouveau personnage qui est celui du zonard. Le terme, à ma connaissance, apparaît vers 69-70, donc le jeune qui traîne comme ça, qui est consommateur.
C'est la réutilisation d'un vieux terme.
De la zone, évidemment.
De la zone, évidemment, qui date de la fin du 19e et du début 20e, les fortifs.
Voilà. Et ce terme revient extrêmement à la mode. Et j'en veux pour preuve un film qui, à mon avis, est emblématique, qui s'intitule « Comme les anges déchus de la planète Saint-Michel », qui est resté pendant des années à l'affiche des cinémas du quartier latin, et qui s'intéresse à la vie de marginaux de ce quartier latin, et qui s'intéresse donc entre autres à des toxicomanes, et en particulier un toxicomane à l'héroïne. Donc c'est assez curieux d'entendre, alors j'ai pas vu les images, mais d'entendre le professeur Delay, qui était d'ailleurs en conflit, à ma connaissance, avec Olive Einstein et les autres, ceux qui avaient une vision un petit peu plus moderne de la toxicomanie.
Oui, je crois que c'était pas le professeur Delay dans cette archive, mais quelqu'un qui travaillait avec lui. Enfin, c'était en tout cas dans le même service. Il faut préciser aussi, Thierry Lefebvre, qu'en même temps ce film en 1974, actuel, créé deux années plus tôt, je crois, c'est 72, refait une couverture, fait une couverture sur l'herbe, fait une couverture sur la drogue, parce que justement, entre temps, il y a une mobilisation de cette presse underground à la française pour défendre l'idée qu'il faut se battre contre cette loi de 1970. Qu'il faut aussi promouvoir d'autres valeurs. Et ils disent, nous maintenons qu'il faut dissocier l'herbe de toutes les autres substances qu'on groupe sous le nom de drogue, par exemple.
Voilà. Donc, le courant opposé cherche à dépénaliser ce qu'ils appellent les drogues douces. Et par drogue douce, dans l'actuel en tout cas, ils entendent cannabis et LSD. Et donc, ces drogues douces, pour eux, ne méritent pas le sort de l'héroïne et donc devraient être autorisées. On voit point avec actuel la notion de drogue récréative. Drogue récréative, le mot apparaîtra fin 80 sous la plume de Olive Einstein, traduction de termes anglais par ailleurs. Et donc il va y avoir tout un effort qui va aller dans ce sens-là et qui va aboutir en 1976, à l'appel du 18 juin qui sera publié dans Libération.
L'appel du 18 juin.
Voilà, évidemment.
Et on peut signaler qu'il y avait eu un précédent en Angleterre.
Parce tout
que
à fait.
Ce n'est pas une idée française. En 67, en juillet 67, en Angleterre déjà. Oui.
En 67, le Times avait publié un appel comme ça, qui avait été subventionné par une association et les signataires, des scientifiques
et les Beatles. Beatles.
Et les Beatles. Et donc ça va aboutir à cet appel de 76 qui sera signé par tous les intellectuels de gauche, comme on les appelait à l'époque, en particulier Guattari, Deleuze et
Bernard Kouchner.
Bernard Kouchner, qui était pigiste, qui travaillait à Actuel, etc.
Henri Bergeron, sur cette montée lente mais sûre, disons, vers un discours très différent, public et surtout assumé par les politiques sur la drogue, pendant que on est encore dans la queue de comète des années 60, 66, 68, 70, sur les discours des hippies, et puis d'un autre côté, cette montée lente et sûre, justement, vers un discours plus répressif. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces milieux des années 70, selon vous? Est-ce qu'il y a une bascule qui progressivement se met en place et qui correspond peut-être aussi à une massification de la consommation de drogue dans la France des années 70?
On ne dispose pas à cette époque-là de statistiques extrêmement claires. D'ailleurs, ce sera l'un des grands mérites de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie de parvenir, il n'y a pas beaucoup d'observatoires qui le font, à objectiver le phénomène à partir des années 90.
Oui, c'est beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard. Les statistiques dont on dispose sont les statistiques du ministère de la Justice ou des institutions répressives dont on sait qu'elles reflètent autant les logiques professionnelles et politiques, notamment l'intensité de la pression policière, que la réalité objective du phénomène. Et puis celle du ministère de la Santé, encore qu'à cette époque, les enquêtes qui sont mises en place pour récolter des informations dans les centres de soins spécialisés qui sont créés dans la foulée de la loi de 70 ne sont guère représentatives de ce qui se passe. Mais on sait qu'effectivement, il y a une massification de la consommation, que des couches beaucoup plus diverses commerces consomment des drogues dans les quartiers, notamment des couches, mais aussi des couches populaires, mais également aussi des couches qu'on pourrait dire des employés, des classes moyennes, hein, la drogue vraiment. Donc cette période, elle augure de ce qu'on pourrait appeler un grand désenchantement, où on se rend compte finalement que la consommation et l'usage de drogues illicites, c'est plus cette pousse, cette fièvre qu'une loi et un dispositif répressif et à la marge quelques centres spécialisés allaient pouvoir rapidement étouffer.
C'est d'ailleurs les prémices du titre, du fameux titre du livre de Claude Lievenstein, qui sera un très grand succès d'édition, qui s'appelle « Il n'y a pas de drogué heureux ». C'est aussi un peu le début de ce discours-là.
Exactement. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, 75, les premiers soignants, dont les gens qui travaillent à Marmottan, font l'expérience d'une réalité beaucoup plus dure. À l'époque, les lieux de soins sont des lieux plutôt communautaires, il n'y a pas de bureau, on accueille tout le monde, on discute, on prend un café, on joue, et puis on essaie de commencer à travailler sur son addiction. Et puis à partir des années 75-80, la population commence à changer.
Mais là, c'est plus la défonce par rapport aux révoltés de la culture.
Les gens commencent à être beaucoup plus des consommateurs, beaucoup plus dépendants de l'héroïne, certains dans des situations sociales ou administratives beaucoup plus compliquées. Les relations sont plus dures, même un écart se fait entre ces premiers soignants et une nouvelle population, comme dirait Maugère, qui se défonce sans phrase, c'est-à-dire sans...
La défonce sans discours.
Sans discours.
Ouais, Thierry Lefebvre.
Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est très net dans le livre de Claude Lievenstein, il n'y a pas de drogué heureux, et encore plus...
1977,
77, et la suite, La drogue ou la vie, si je me souviens bien, de 83, où alors là, il est carrément désabusé. Et donc, Lievenstein note une évolution de la fréquentation au niveau de Marmottan. Il la décrit de la sorte, donc il faut lui faire confiance. Au départ, une population qui intellectualise son rapport à la drogue, issue plutôt de catégories relativement aisées, voire de catégories très aisées. À partir donc de la, on va dire 75 pour prendre un repère, effectivement, des jeunes qui adoptent la défonce, effectivement, c'est le terme, et souvent, Lievenstein insiste beaucoup là-dessus, issus également de l'immigration. Et donc une modification radicale de la fréquentation de ces centres.
De ces consultations. Oui. Alors justement, un peu plus tard, c'est en 1978, très grand succès d'édition auprès des adolescents et pas seulement. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, Nathalie Canoui.
Kurfürstenstrasse. Notre vendeur habituel nous reconnaît de loin. Il file tout de suite quelques rues plus loin, jusqu'à un coin tranquille. Je lui en achète pour 40 marques. Je suis bien décidée à me faire mon premier shoot. Quand on sniffe, on part lentement. Quand on se pique, on part comme une fusée. J'ai entendu les autres comparer ça à l'orgasme. Je veux connaître ça, sans penser une seconde que c'est m'enfoncer un peu plus dans la merde. On va dans les WC publics, du côté de la Potsdamerstrasse, un endroit dégueulasse. Devant les WC, c'est plein de clochards. Les alcoolos viennent roupiller ici, on leur distribue un paquet de cigarettes. Ils ont l'habitude et guettent notre arrivée. Une nana du Sand, Tina, nous accompagne. Detlef sort ses ustensiles, seringues, cuillères, citrons, d'un sac en plastique. Il verse la came dans la cuillère, ajoute un peu d'eau et de jus de citron. Comme ça, le truc, qui n'est jamais tout à fait pur, se dissout mieux. Il fait chauffer la came avec un briquet, emplit la seringue. C'est une vieille seringue à usage unique, d'une saleté repoussante, avec une aiguille complètement émoussée. Detlef se pique le premier, puis c'est le tour de Tina. Après, l'aiguille est complètement bouchée, inutilisable, du moins à ce qu'ils affirment tous les deux. Peut-être pour m'empêcher de me piquer, mais j'en ai d'autant plus envie. Un autre fixeur est venu se piquer dans les WC. Un type complètement vidé, au dernier stade de la déchéance. Je lui demande de me prêter ses ustensiles, il accepte. Mais brusquement, ça me répugne affreusement de m'enfoncer cette aiguille dans la veine. Je la mets en place, là, à la saignée du bras. Je sais comment il faut faire, j'ai assez souvent regardé les autres. Mais non, je ne peux pas. Detlef et Tina font comme si tout ça ne les regardait pas. Je suis obligée de demander au type de m'aider. Bien entendu, il comprend tout de suite que c'est mon premier shoot. Je me sens passablement idiote devant ce fixeur expérimenté. Il me dit que c'est dégueulasse, mais attrape la seringue. Comme mes veines sont à peine visibles, il a du mal à en trouver une. Il s'y reprend à trois fois avant de ramener un peu de sang dans la canule. Il grogne encore une fois qu'il trouve ça dégueulasse et m'injecte toute la dose. Je pars vraiment comme une fusée. Mais ce n'est pas comme ça que j'imaginais l'orgasme.
Un extrait donc de Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, un livre de 1978, un immense succès d'édition, Thierry Lefebvre. Là, on est dans la bascule, on est plutôt du côté de chez Fassbinder, par exemple.
Oui, oui, c'est, il va y avoir une adaptation de ce film-là. Je crois me souvenir que le livre a été traduit en France tardivement.
En 1981.
En 1981, au moment de la sortie du film, qui est de 81. Et effectivement, là, on a une représentation assez trash de ce qu'est la toxicomanie, avec évidemment l'héroïne qui est au centre de ces rapports entre jeunes et jeunes adultes au sein de Berlin. Il y a tout un contexte aussi qu'il faudrait remettre un petit peu au clair. Moi, ce que je retiens surtout pour ce qui est de la France, c'est que le film arrive au moment en 81 et puis 82, parce que le film sera vu par des générations d'adolescents, au moment où on va commencer à parler d'épidémie de sida. Je n'oublie pas qu'au début de l'épidémie de sida, qui n'a pas ce nom à l'origine, on appelle ça la maladie des 4 H. Ouais. L'un des H, donc il y avait haïtien, il y avait homosexuel et hémophile, et le dernier c'était héroïnomane. Et ce film correspond parfaitement à une nouvelle période qui s'ouvre.
Henri Bergeron, là, on rejoint le discours, disons, désabusé, qui était celui que vous décriviez tout à l'heure, de ceux peut-être qui étaient les soignants de Marmottan entre le début des années 70 et la fin des années 70. On voit bien aussi, c'est ce que raconte Thierry Lefebvre dans son article, que, par exemple, pour l'appel du 18 juin, eh bien, progressivement, il y a très peu de gens qui finissent par rejoindre, de personnalités, par rejoindre l'appel du 18 juin, bien que publié en 1976, et que progressivement, le discours va devenir plus dur.
Oui, je pense que vous avez totalement raison, avec une petite nuance qui est importante et qui rejoindra ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut toujours situer l'endroit duquel les acteurs parlent.
Bien sûr.
Et nos professionnels du soin dans les années 70-80 sont situés à un endroit de l'espace social qui fait que converge vers eux un certain type de consommateurs de drogue. Mm-hmm. Donc je prends un terme neutre, ça peut être drogue douce, drogue dure. Mm-hmm. Et il se trouve que parmi ceux-ci, effectivement, ce sont beaucoup des héroïnomanes et beaucoup parmi ceux-ci dans des situations, j'ai envie de dire, assez difficiles et dans un rapport avec le produit extrêmement compulsif. Cela ne résume pas l'ensemble des caractéristiques de la population des usagers. Donc, effectivement, alors c'est intéressant parce que cet échantillon partiel de la population que les professionnels rencontrent, c'est sur la base de la constatation de cet échantillon, faute de données épidémiologiques plus larges, que ces professionnels vont se former une opinion sur les problèmes de drogue et vont ensuite aller nourrir les médias et le discours politique sur ce qu'il convient de faire et de ne pas faire en matière de drogue.
Aurélie. Et on peut peut-être ajouter que là aussi, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, c'est un livre qui a été enseigné, en tout cas on a conseillé aux professeurs de français en lycée, seconde en tout cas, justement de le donner à lire. Donc là aussi ça dit beaucoup sur cette représentation et cette image du drogué dans la société à cette époque-là.
Thierry Lefebvre.
Tout à fait, c'est-à-dire le caractère édifiant évidemment de ce livre qui va être lu pendant toutes les années 80 dans le secondaire et qui va accompagner, je reviens sur ce thème, la question du VIH, évidemment. Et donc, en particulier, on le voit bien dans l'extrait qui a été lu, les pratiques à risque sont montrées et vont être évitées. Et donc, on va arriver à la substitution un petit peu plus tardivement, le temps que les esprits arrivent à cette solution. Mais la substitution un peu généralisée, je crois, au milieu des années 90.
Hein. 95.
Merci donc Henri Bergeron, merci Thierry Lefebvre, merci à Nathalie Canouille d'avoir lu pour
pour nous ces extraits de Moi, Christiane F, mais également de L'Herbe Bleue. Je rappelle, Thierry Lefebvre, que vous êtes auteur de La bataille des radios libres, un livre aux éditions du Nouveau Monde qui vient de remporter le prix du comité d'histoire de la radiodiffusion française, donc pour le prix Recherche en l'occurrence, puisque c'est un des grands livres sur justement cette question de l'émergence des radios libres entre 1977 et 1981. Et puis on pourra vous retrouver, Henri Bergeron, à ces journées de jeudi, vendredi et samedi autour de Drogues et Culture, organisé par le pôle santé de Sciences Po, où vous enseignez, et également donc l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Merci à tous les deux.
Merci.
Et merci à Jean-Michel Bernaud qui était à la technique, ainsi qu'à Marie-Ange Garandeau qui, sans le savoir, me fait plaisir, puisque ce Brown Sugar, je n'ai jamais pu l'écouter sur la version originale du disque que j'avais acheté dans les années 70 en Espagne, puisqu'il avait été supprimé du disque des Rolling Stones par le régime de Franco et remplacé par un autre titre. Merci encore. Demain, nous reviendrons dans le débat historiographique sur les périodes plus anciennes, en particulier le 19e et le début du 20e siècle, et sur ce que Henri Bergeron appelait la drogue cultivée, enfin en tout cas quand cette drogue touchait les artistes, les intellectuels et les poètes au 19e et au 20e siècle.